Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Florent Thébault est avec nous. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président Europe du Sud de chez Synopsys. Synopsys qui va envoyer des jumeaux numériques sur la Lune. Vous allez nous expliquer ce qu'est Synopsys. Vous allez travailler avec la mission Artemis de la NASA. Prestigieux. Bravo. Félicitations, parce que j'imagine que la concurrence est rude dans ce type de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous présenter Synopsys, déjà ?
Alors, tout à fait. Synopsys, historiquement, c'est le leader mondial du design, de la conception de microprocesseurs, de semi-conducteurs. À l'été 2025, Synopsys a intégré la société Ansys, qui était le leader mondial de la simulation numérique physique.
D'accord.
On va y venir à la Lune, du coup. Mmh. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des grandes tendances de marché, qui sont comment les concepteurs de microprocesseurs prennent en compte les phénomènes physiques, mais également les industries plus lourdes, dont par exemple l'industrie spatiale, comment elle va, elle, modéliser les phénomènes physiques, mais également de plus en plus intégrer des microprocesseurs dans ces systèmes, et du coup pouvoir avoir une chaîne complète qui va du microprocesseur jusqu'aux phénomènes physiques.
D'accord. Alors,
pour en revenir au spatial, en fait, on n'en est pas à notre galop d'essai sur la partie donc la simulation physique et système de chez Synopsys. En fait, on avait déjà collaboré sur la DART mission, je ne sais pas si ça vous parle.
Oui.
C'est quand, pour la première fois, l'humanité a dévié la trajectoire d'astéroïdes,
oui.
Qui était un événement assez unique. On avait également contribué
au... espèce d'entraînement pour au cas où, un jour, on se retrouve avec une météorite qui nous fonce dessus.
Exactement. Et donc, en fait, Synopsys va représenter virtuellement l'environnement spatial ou les conditions physiques qui vont être trouvés dans l'environnement spatial. Parce que vous vous doutez bien, c'est très compliqué de faire du prototypage.
Ouais.
Et encore plus de reproduire ces conditions ici sur Terre. Donc on peut pas se permettre quelque part de le faire. Donc on est obligé d'utiliser la modélisation numérique.
Alors donc là, ça nécessite énormément de puissance de calcul, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais également des modèles physiques avancés.
Mm-hmm.
Et donc si on en revient à Artemis 2,
ouais.
En fait, on travaille avec la NASA sur trois sujets principaux. Le premier, vous savez, aller sur la Lune, c'est pour que les cosmonautes puissent faire des missions. Ces cosmonautes, ils ont une combinaison. Cette combinaison, elle est soumise à des rayonnements, à du plasma spatial, qui peuvent provoquer des décharges électrostatiques des batteries des combinaisons. Et vous doutez bien qu'avoir un cosmonaute qui n'a plus de batterie,
ouais.
Au milieu d'un champ lunaire,
c'est pas bon.
Ça fait des ordres.
Ça fait penser un peu à Gravity, ça s'est mal passé à la fin.
Exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir le modéliser et s'assurer que cette batterie va tenir la charge dans les conditions lunaires. On peut parler des températures aussi, où on sait quand on est face soleil ou face ombre, on a des amplitudes thermiques complètement différentes.
Et alors c'est là ce que vous faites, si j'ai bien compris, c'est génial, c'est-à-dire que vous arrivez à recréer un jumeau de toutes ces pièces sensibles, c'est ça ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on va modéliser ces pièces et on va recréer l'environnement physique auquel elles vont être soumises. Contraintes de température, champ de plasma, radiation, etc. etc.
Et voir si elles tiennent le coup, le choc en fait.
Exactement, parce qu'on pourra difficilement envoyer un courageux cosmonaute et lui dire bon courage.
Bon alors écoute, vas-y.
On va voir si ça marche ou pas. Exactement. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est de s'assurer que quand le cosmonaute va partir en mission, sur sa batterie, il est tranquille, il peut y aller les yeux fermés, ça va fonctionner. Le deuxième sujet, là on a un partenariat avec la société Cesium. Cette société elle a modélisé la topologie de la Lune. Parce que l'objectif de la NASA c'est de créer un réseau de communication sur la Lune pour permettre aux véhicules lunaires, aux cosmonautes, à la station ou à la base lunaire, j'ai entendu que vous aviez mentionné tout à l'heure dans votre émission, de pouvoir assurer la communication. Parce que là encore, perdre le lien avec un astronaute ou avec un véhicule, ça fait des ordres et ce serait pas possible et c'est très complexe.
C'est sûr.
Donc là, avec des modèles électromagnétiques et également cette topologie lunaire, donc prendre en compte les cratères, les roches, etc., on est capable d'avoir des modèles qui vont nous permettre de s'assurer que ce réseau de communication, bien, je veux dire, un jumeau numérique de ce réseau de communication, va être fonctionnel.
Et là, c'est quoi? C'est de la 4G? C'est du Wi-Fi? Alors, bosse sur quoi, là, comme
alors, on parle de réseau Internet, de réseau de communication. Je pense qu'ils testent plusieurs hypothèses. On n'est pas forcément dans tout le secret des dieux.
D'accord.
Nous, on vient avec.
Oui, mais si vous simulez tout ça, vous le savez. En fait, plus ou moins, non ?
Oui, tout à fait, mais on peut simuler plusieurs hypothèses, parce qu'il peut y avoir des notions. Est-ce que le véhicule va avoir le même système de communication, par exemple, pour son guidage, il est autonome ?
Oui.
Est-ce que le cosmonaute, son réseau de communication, va peut-être être différent de sa géolocalisation ? Enfin, il peut y avoir plusieurs degrés. Et le troisième point, c'est que tous ces dispositifs vont avoir des antennes. Et là, on vient aussi aider la NASA à faire des jumeaux numériques de ces antennes pour optimiser leur fonctionnement. On peut parler de consommation d'énergie, on peut parler s'assurer que la communication se passe bien, y compris avec des contraintes qu'on ne connaît pas réellement ou qu'on ne peut pas reproduire physiquement sur Terre.
D'accord. Et vous arrivez à avoir une précision, on va dire, un taux de réalisme qui est hyper élevé. Est-ce
très,
que vous
très
arrivez
proche
à
de
chiffrer
ça? Très proche de la réalité, parce que En réalité, la modélisation numérique, elle est partout autour de vous. Je vois que devant vous, vous avez un ordinateur portable, vous avez probablement un smartphone dans la poche. Mais quand vous prenez l'avion, quand vous prenez le train, ou quand vous allumez l'électricité chez vous, la centrale nucléaire qui produit l'énergie, elle a des jumeaux numériques virtuels qui ont été utilisés avec nos outils.
D'accord.
Pour assurer de la fiabilité et de la sécurité de ces équipements-là. Parce que là encore, il y a des prototypes qui sont très complexes à faire. On peut difficilement dire, tiens, on va prendre un avion, on va le cracher.
Ouais, et on va voir ce qui se passe.
Et on va voir ce qui se passe. Mmh. Tiens, notre centrale nucléaire, on va la pousser hors des limites, et ça va mal se passer. Donc finalement, c'est la simulation numérique a démarré dans les années 80, donc c'est pas quelque chose de récent, 70-80, et elle a pris une ampleur avec la puissance de calcul qui suit, parce que plus la puissance de calcul augmente, plus on est capable de reproduire l'environnement, plus on est capable de traiter des phénomènes complexes.
Donc grâce à vous, ça évite des accidents, ça évite des pannes, des dysfonctionnements, on est d'accord.
Exactement. Ou on vient même optimiser des équipements qu'on a aujourd'hui.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 50 ans, lors des premières missions lunaires, il n'y avait pas tout ça.
Non.
C'est dingue.
C'est dingue, mais aujourd'hui, les missions lunaires de l'époque étaient une prouesse. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'installer une station lunaire avec des gens à résidence.
Ouais. Ça rentrera un peu dans la banalité dans quelques années, finalement.
Tout à fait, mais l'utilisation de la modélisation numérique est déjà dans la vie de tous les jours. Ce que j'essaye de vous passer comme message sans s'en rendre compte, tous nos concitoyens...
Sans le savoir. On parle beaucoup de jumeaux numériques dans le domaine de la santé.
Oui.
Est-ce que c'est un sujet que vous traitez aussi?
Alors, c'est un sujet qu'on traite. Alors, dans le domaine de la santé, on peut parler des équipements. Puis il y aura des scanners, des machines opératoires, etc. Donc là, on est sur de l'équipement, donc on est plutôt sur notre cœur de métier.
C'est-à-dire que là, vous allez vérifier qu'une machine va bien fonctionner dans des conditions extrêmes, etc.
Exactement.
Ouais. Je parlais plutôt des jumeaux numériques, on va dire, pour reproduire un organe ou des cellules, des choses comme ça.
On travaille dessus, on a beaucoup de partenariats avec des universités, avec des centres hospitaliers. Donc là, c'est mondial, c'est à travers le monde, ça peut être local. L'idée, la clé de tout ça, c'est demain pouvoir faire du patient spécifique. Si demain on est capable de dire, je prends un patient lambda, je suis capable de reproduire ses conditions biologiques et pouvoir anticiper ce qui va se passer si j'applique tel ou tel traitement ou telle chirurgie.
C'est-à-dire que là, le traitement sera virtuel, c'est-à-dire qu'on saura numériquement s'il y aura un résultat ou pas.
Mais on l'a déjà fait en fait. Il faut savoir que quand on déploie un stent, on est capable aujourd'hui de prendre votre système sanguin et d'aller chercher le bon stent qui va venir corriger, parce qu'en fonction de votre topologie artérielle...
D'accord.
Par exemple, vous et moi, on va peut-être pas avoir besoin d'un même dispositif. Et plutôt que d'essayer un premier dispositif, c'est pas le bon, on en remet un deuxième.
Oui, c'est embêtant.
On vient scanner et on se dit, on va essayer d'avoir le bon dispositif du premier coup.
Et ça, c'est rentré dans le quotidien des cardiologues ou des chirurgiens cardiologues?
Ça y vient de plus en plus. Ça y vient de plus en plus parce que pour eux, c'est aussi un gain de temps.
De temps, oui.
C'est un gain financier aussi pour notre système de santé, puisqu'on s'assure un seul dispositif. Et puis, c'est aussi un gain de pouvoir anticiper des imprévus. Parce que si on a modélisé le patient avant de venir intervenir, on s'évite quelque part des mauvaises surprises.
C'est clair. Qu'est-ce qui reste à numériser, à créer en jumeaux numériques? Vous avez, il y a un objectif, il y a quelque chose qui est très compliqué à reproduire numériquement, que vous aimeriez réussir à faire?
Aujourd'hui, vous savez, toutes les sociétés, elles repoussent un peu leur R&D au-delà des limites, parce que la compétition est féroce. Donc finalement, la complexité vient du couplage des phénomènes physiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, mais plus la puissance de calcul augmente, plus on est capable de traiter des phénomènes complexes. Le point qui peut être un peu, très novateur, ça va être quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans ces processus R&D et dans ces modélisations numériques. Et là, on essaye d'être un petit peu précurseur. Le premier point, c'est pour avoir des modèles d'intelligence artificielle qui optimisent nos algorithmes, donc qui rendent quelque part l'interface utilisateur et l'outil plus performant. Mmh. Mais demain aussi, comment on aimerait être les premiers à pouvoir mettre sur le marché ce qu'on appelle l'agentic AI, donc des agents virtuels qui vont pouvoir venir faire tourner des modèles numériques pour permettre à l'ingénieur d'être plutôt en prise de décision, on va dire, qu'être en opération.
Et là, c'est sur la bonne voie aussi?
Sur la bonne voie. Ça fait partie de notre plan stratégique. On avance très vite. Il y a des choses qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années, très rapidement.
Passionnant tout ça. Merci beaucoup, Florent. Rappelons que vous êtes le vice-président Europe du Sud chez Synopsys. Florent Thébault, donc. Merci beaucoup.
Merci à vous.